Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Luc Lambert, je suis le président du club Agile Camp, mais je suis surtout un universitaire et donc j'enseigne dans le supérieur. Et ce que je vous propose, c'est de partager un petit peu mes expériences et mes considérations sur l'évolution de l'enseignement supérieur, sur mes enseignements, et en particulier, j'ai intitulé cette conférence « Enseigner le bon sens », parce que finalement, quand je m'interroge sur ce que j'enseigne à mes étudiants, c'est du bon sens. Donc je vais essayer de détailler, d'expliquer un petit peu tout ça. Ça peut être surprenant qu'un universitaire, donc dans l'enseignement supérieur, enseigne du bon sens au lieu d'enseigner la science. Et je vais un peu vous expliquer pourquoi, d'où ça vient et pourquoi je pense que ça devient quelque chose de fondamental. Alors, ce n'est pas une conférence peut-être hyper fun parce que je vais vous parler de problèmes de fond que je rencontre tous les jours avec nos étudiants et qui me paraissent importants et j'ai envie de les partager avec vous. Alors, d'abord, je remercie nos partenaires, sans quoi le printemps agile n'existerait pas. Et je vais vous parler de mon parcours. Alors, je suis un universitaire un peu bizarre. C'est pour ça que je fais des enseignements un peu bizarres, ça doit être lié. J'ai fait une thèse en 87, donc à ce moment-là, j'étais un universitaire normal. J'ai été jusqu'en 99 enseignant-chercheur. Et là, il se trouve que j'ai eu une idée, déposé un brevet, et j'ai créé une start-up qui s'appelait Valiosis. C'était la première start-up primée au concours de l'innovation en Basse-Normandie, en émergence puis création-développement. Donc, scientifiquement, ça tenait la route. Commercialement, pas du tout. Pas du tout. Ça a été pour moi une épreuve extrêmement difficile. Humainement, ça tenait pas le coup non plus, parce que j'ai managé des équipes comme on manage un professeur manage ses étudiants, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Je m'en suis aperçu, ils ne pouvaient plus me supporter. J'ai d'ailleurs quitté l'entreprise. L'équipe ensuite a fait son chemin. L'entreprise a été revendue à Dassault Systèmes. Donc c'était une très bonne équipe. Il y avait des choses qui se sont créées. Mais en gros, ce que c'est devenu, ça m'a complètement échappé. Et moi, je me suis dit, je vais me remettre en cause. Je vais aller à Bouygues Télécom parce que je connaissais le DSI. Donc je suis allé à Bouygues Télécom. Bon, c'était un peu pénible de prendre le Paris-Caen. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le Paris-Caen. Tous les lundis matins, c'est atroce. Bon, mais enfin, j'y suis resté 4 ans. J'ai tenu le coup, 4 ans et demi. Et là, j'ai appris le management de projet. Et il y a une chose qui m'a énormément surpris quand je suis arrivé à Bouygues Télécom, c'est que je pensais que j'allais enfin utiliser ce que j'avais fait de scientifique, parce qu'en start-up, j'avais un peu souffert. Hein. J'avais plus fait des conflits du marketing que du scientifique, et en fait, pas du tout. Je me suis aperçu que ce qui m'a été super utile quand je suis arrivé à Bouygues Télécom, c'est ce que j'avais appris en start-up. Ce n'est pas du tout mon passé d'universitaire, ce n'est pas du tout la science que j'avais apprise. Et donc, ça m'a un peu perturbé. Alors, c'est bien parce qu'on a fait ce qu'on appelle du lean start-up interne, c'est-à-dire qu'on a développé une start-up interne pour réaliser le service et mettre en place le service qu'on voulait mettre en place. Ce qui a marché, au bout de 4 ans, on était capable d'aller chercher les données sur les bases de production de Bouygues Télécom. Donc il y avait 9 millions de clients à Bouygues Télécom sur le système d'information. On en retirait 10 000, on anonymisait toutes les données et les testeurs pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec ces données-là. Et on avait des données représentatives de ce qui se passait dans la production de Bouygues Télécom. Donc c'était un challenge technique intéressant. Mais je ne l'ai réalisé que parce que j'avais les qualités humaines et les connaissances, en quelque sorte marketing, pour monter une start-up interne. Sans quoi, j'aurais jamais réussi. Alors je ne vais pas détailler, c'est assez compliqué, mais c'est une aventure qui était hyper intéressante. En 2010, je suis revenu à l'université, j'avais fini mon challenge, et j'ai créé le Club Agile en 2012. Parce que, qu'est-ce que j'avais appris en entreprise? C'était à manager des projets, donc je me suis mis à enseigner le management de projet. Et quand on enseigne le management de projet en informatique, on s'intéresse aux méthodes agiles. C'est comme ça qu'est né le Club Agile, hein. C'est sorti de l'informatique le Club Agile. Vous ne rencontrez pas beaucoup d'informaticiens dans les couloirs, il y en a, mais pas tant que ça, mais au départ, ce sont des techniques de management de projet informatique. Mais bon, ça s'étend bien, bien au-delà. Alors, pourquoi enseigner le bon sens? Qu'est-ce que c'est que le bon sens? Alors, je suis allé voir un petit peu les définitions. J'en ai deux qui me paraissent intéressantes. Celle de Wiktionary. Donc, je suis carrément allé sur le web. Et ouais, je suis allé voir sur le web. Pour un universitaire, c'est déjà un scandale. Sentez déjà que je suis un peu disruptif. Ça va mal se passer après. C'est que le début. Hein, après, c'est pire. Donc, capacité de discerner clairement ce qui est évident sans en être discret par d'autres considérations. Excellent, ça me plaît. Ça me plaît. Parce que si on regarde comment se comportent les étudiants et aussi ce qu'on leur enseigne, on s'aperçoit qu'on leur donne beaucoup d'autres considérations qui ne leur permettent pas de voir ce qui est évident. Et on perd l'évidence. Savoir constater des choses évidentes est quelque chose que les étudiants sont en train de perdre. Ou qu'ils récupèrent, mais en dehors de nos enseignements universitaires. C'est ça qui me gêne un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de scientifiques, de culture scientifique, de formalisation, de conceptualisation, qui est venue masquer, faire une sorte de voile sur des évidences de bon sens qu'on peut constater et qui sont absolument cruciales pour toute personne qui fait du management de projet. Moi, j'ai fait du management de projet. Qu'est-ce que j'ai découvert à Bouygues Télécom ? C'est qu'avant de faire de la science, il fallait avoir du bon sens. Et voilà, j'ai redécouvert ça. C'était peut-être évident, mais quelque part, je l'avais désappris. Un autre, c'est le petit Robert, ses capacités de bien juger sans passion en présence de problèmes qui ne peuvent être résolus par un raisonnement scientifique. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé parce que venant de l'informatique et ayant fait une thèse en informatique et ayant résolu des problèmes scientifiques en informatique, je pouvais penser que j'étais le roi du monde. Et en fait, la plupart des problèmes informatiques n'ont rien à voir avec la science. On a des problèmes humains, on a des problèmes de communication, on a des problèmes techniques, des problèmes techniques très rares à terre, on a des problèmes d'échange de compétences, d'échange d'expériences, mais des problèmes scientifiques, on en a un peu, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et quelque part, notre enseignement et l'enseignement que j'ai eu à l'université et que j'ai dispensé à l'université lorsque j'étais professeur, était très scientifique et il ne répondait pas aux besoins qu'ont les étudiants d'informatique quand ils arrivent dans l'entreprise. Alors, je ne dis pas qu'il répond absolument pas, je ne dis pas que ce qu'on apprend scientifiquement n'a aucun intérêt, mais beaucoup de choses essentielles ne sont pas enseignées. Je me suis aperçu de ça quand j'étais, la première fois, j'avais pas créé ma start-up, j'allais le faire. J'avais un enseignement que j'adorais, qui était un enseignement sur la programmation des jeux, en première année, en deuxième année de DUG, en fait, deuxième année de DUG. Ça s'appelait le DUG à l'époque. Habituellement, je donnais comme évaluation un devoir de programmation. Donc les étudiants programmaient un jeu. Et alors je leur avais appris que le jeu, il fallait faire un programme dirigé par l'interface, que c'était l'utilisateur qui devait guider, mais c'était un jeu, il y avait une règle. Un jour, je me suis dit, ah bah, je vais changer, c'est rigolo, on est en train de déménager, on va faire un logiciel pour aider à affecter les bureaux du déménagement. Très bien. Je me dis, bon, avec les techniques de création d'interface que je leur ai apprises, ça va être facile. Il n'y a pas un programme qui marchait. Pas un. Qu'est-ce qui s'était passé ? Ben, il n'y avait plus de règles. Quand on programmait un jeu, il y avait des règles du jeu, donc on savait comment on a utilisé le logiciel. Là, comment quelqu'un qui planifie le déménagement de l'université va utiliser le logiciel, les étudiants n'en savaient rien. Donc dès qu'un utilisateur bêta, à savoir moi, utilisait leur logiciel, il plantait. Et tous les logiciels étaient nuls. Donc mes étudiants, j'étais super fier de mon cours, j'étais vachement content, je me disais « ouais, je vais leur apprendre un truc super ». Et là, j'ai eu un énorme moment de déprime. D'ailleurs, j'ai créé ma start-up, je n'ai plus jamais fait ce cours-là. Je suis parti, je ne l'ai pas supporté, mais je me suis dit « mais je leur ai appris de la merde en fait, j'ai appris un truc, ça ne leur sert à rien. Ce que je leur ai appris, c'est beau, c'est théorique, c'est conceptuel, mais ça ne correspond pas à la réalité ». La première chose qu'il aurait fallu faire, vous n'avez qu'à aller à la conf de Frédéric, bah, rencontrer les utilisateurs, discuter avec eux, savoir qu'est-ce qu'il faisait le gars qui gérait le déménagement. Mais je ne leur ai pas appris ça. Je ne leur ai pas appris ça et je me suis dit, mais c'était quand même du bon sens. Enfin, quelque part, ça me choque. Donc, je suis parti dans l'industrie. Je me suis dit, je vais apprendre comment des gens, comme à Bouygues Télécom, par exemple, arrivent à développer des logiciels qui marchent. Bon. Voilà. Alors, quand je suis revenu à l'université, on m'a dit, tu sais, les étudiants, ils ont vachement changé, ils sont super consommateurs. Je me suis beaucoup interrogé là-dessus. Je me suis aperçu que les étudiants, ils étaient géniaux. Mais que par contre, ils ne vivaient pas dans le même monde que nous. Alors, prenons un étudiant lambda, on va l'appeler Karim. Ça vous va, Karim ? Ouais, j'en ai plein qui s'appellent Karim, donc on va l'appeler Karim. Qu'est-ce qu'il voit, Karim ? D'un côté, il voit l'institution. L'institution, le CNU, vous savez ce que c'est que le CNU ? Ah, vous ratez quelque chose. Ah, vous ratez quelque chose. Alors, il faut savoir, le CNU, c'est le Conseil National des Universités. Nous sommes un pays qui est assez spécial, à savoir que les disciplines scientifiques sont définies par décret. Je crois qu'on est le seul au monde à faire ça. Moi, je suis dans une case. Si. J'ai du mal avec ça, hein. J'en sors tout le temps, mais je suis dans une case. Ça s'appelle la 27e section. C'est la section des informaticiens. Quand vous parlez d'agilité à la 27e section, personne ne vous répond. J'ai essayé, j'ai dit, on pourrait peut-être parler d'agilité, vous faites du génie logiciel, là peut-être que si je venais parler d'agilité, vous expliquiez un petit peu ce que c'est. Ils ne m'ont pas répondu. J'ai essayé, non, l'agilité c'est mal vu, c'est pas bien, ça doit être sale, c'est pas scientifique, enfin ça n'a pas les vertus qu'on attend de la 27e section. Enfin bref, je suis dans une section, on ne fait pas d'agilité. Ok, donc ça c'est le CNU, c'est le truc qui gère l'avancement des universitaires. Donc moi, si j'avance aujourd'hui, c'est parce que j'ai renoncé à mon avancement. Donc je ne serai jamais payé pour ce que je fais. Parce que non, ce n'est pas bien, c'est sale et ce n'est pas correct. Ça, c'est l'orientation et les différentes filières. C'est très compliqué. Vous avez le diplôme, le sacro-saint diplôme. Vous savez, le baccalauréat, le diplôme. Si vous ne l'avez pas, ça ferme les portes. Si vous l'avez, ça n'en ouvre aucune. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais si, enfin, ça sert à emmerder le monde. Mais il y a plein de choses qui ne servent qu'à emmerder le monde. Donc il y a le baccalauréat. Vous avez le cours d'amphi. Ça, c'est la Sorbonne. C'est quand même un beau lieu. Le cours ex cathedra, où les élèves écoutent religieusement ce que dit le prof, parce que, en tant qu'universitaire, il faut savoir que nous sommes des sachants. C'est nous qui savons. Donc, je ne devrais pas douter. Mais il y a un... voilà. Nous sommes des sachants, donc on doit nous écouter, on doit apporter la connaissance aux étudiants. Et puis, la pyramide des catégories sociales, avec toutes les chefs, les managers, les chefs de projet, tout ça, toute cette complexité. Et mon pauvre Karim, là, il n'y comprend rien. Il n'y comprend rien. Vous savez, les étudiants se sont battus, paraît-il, pour qu'il n'y ait pas de sélection à l'entrée de l'université. Ma femme a fait l'orientation active, c'est-à-dire qu'on reçoit tous les dossiers des étudiants, on leur dit si c'est intelligent de venir en L1 informatique ou pas. Ils s'en foutent complètement, d'une part, et d'autre part, ils ne savent pas qu'il n'y a pas de sélection. Donc, quand ils arrivent en L1 Info, ils croient qu'ils ont été sélectionnés et qu'ils peuvent faire le L1 Info. Mais non, pas du tout, en fait. Non, non, c'est juste qu'il n'y a pas de sélection. Comme ça, on vient avec un bac pro pâtissier en L1 Info, et évidemment, on s'aperçoit qu'il y a des maths. Ben oui, en L1 Info, il y a des maths. En fait, les étudiants ne connaissent pas grand-chose de ce système-là. S'ils savent qu'ils doivent avoir le bac, ça, à la rigueur. Mais en fait, très souvent, ils ne sont pas au courant. Et puis, de l'autre côté, il y a la réalité du monde. Le web, ça, ils connaissent. Le téléphone portable, ils connaissent très bien. Les tablettes aussi, enfin. Pour l'emploi, ça, ils en entendent parler. Hein, et ils savent que, probablement, un jour, ils fréquenteront ce truc-là. L'équilibre, la précarité, libéralisme, inégalité, rentabilité, ils sont au courant. Non à la fermeture de PSA Aulnay, les usines qui ferment. Enfin, bref, plein de trucs. Plein de trucs dont ils entendent parler. Et à côté, on a ce truc-là, qui est un truc un peu immuable. Mais qui est finalement l'univers de l'université dans laquelle il rentre. Et vous pensez bien qu'à l'avenir, quand il sortira de l'université, notre petit Karim, il verra les auto-entrepreneurs. D'ailleurs, moi, j'ai des étudiants auto-entrepreneurs. J'ai des étudiants qui ont déjà eu des clients. Quand je leur apprends le management de projet, ils savent déjà ce que c'est un projet. Et souvent, quand je leur apprends, par exemple, à faire une charte de projet, ils la réutilisent avec leurs clients. Ils sont futés. Et des étudiants, c'est la première. Moi, quand j'ai enseigné il y a 10 ans, ça ne se produisait pas. Maintenant, je leur enseigne un truc pragmatique, ils l'utilisent tout de suite. Ils disent « Ah ouais, c'est bien ce truc que j'utilise. » Donc, ils sont entrepreneurs. Ils connaissent Open Classroom, ça, c'est des cours en ligne sur le code. Donc, les pauvres enseignants qui essayent d'apprendre aux étudiants à faire du code, ils sont en concurrence avec le web, avec Open Classroom, qui est un excellent site. On apprend de très bonnes choses. Vous avez Wikipédia, vous avez Twitter. Vous avez tous les MOOC, hein, avec le CEMU qui nous développe plein de MOOC, mais il y en a de partout. Vous avez Facebook. Hein, il faut savoir que Facebook, pour les étudiants, c'est un outil normal de gestion de projet. Voilà, c'est moi, j'ai un projet, là. Qu'est-ce que je fais? On discute, on chatte sur Facebook. Voilà, je suis au courant, via Facebook, de ce qui se passe sur le projet. Je ne dis pas que c'est l'outil que je préfère, mais les étudiants, ils vont naturellement. Et je me dis, après tout, entre Google Drive et Facebook, ils se débrouillent pas si mal. Donc voilà, donc l'univers dans lequel va vivre Karim, ça va être ça. Et à côté, effectivement, il fait un passage pendant quelques années dans un truc super structuré, bien cadré, avec une tradition, mais qui n'est plus connecté avec ce monde-là. D'où un certain nombre de problèmes. Alors qu'est-ce qu'on peut enseigner à nos étudiants qui sont devant cette abondance d'informations? Ils vivent dans une société d'abondance. Le prof n'a certainement plus le monopole du savoir. Donc, nous considérer comme des sachants, ils peuvent nous considérer comme des gens compétents, comme des gens qui peuvent les aider, comme des gens bienveillants, mais des sachants, non, il y a aussi de la connaissance ailleurs. Et très clairement, il y en a plein. Il faut savoir, par exemple, qu'en informatique, beaucoup des technologies qui existent n'ont pas été inventées par des universitaires. Elles ont été inventées par des gens qui ont fait des thèses, donc qui ont un très bon niveau scientifique, mais qui sont partis dans l'entreprise. Ne serait-ce que parce que pour gérer et manager le projet, il faut avoir des connaissances et des compétences humaines qui ne sont pas que des compétences scientifiques. Donc, quelles connaissances peut-on enseigner à nos étudiants face à cette abondance d'informations? La question que je me suis naturellement posée, parce que c'est dans ma nature, c'est commençons par comprendre leurs attentes. Je n'ai jamais dit ça dans un conseil d'université. Je n'ai jamais dit ça à l'université. Il ne faut pas dire ça. Si vous dites « commençons par comprendre les attentes de nos étudiants », vous avez la réponse immédiate, mais ce n'est pas à nous de nous préoccuper de leurs attentes, c'est à eux de correspondre à nos attentes à nous. C'est, grosso modo, le langage traditionnel de l'université. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Il y a des professeurs bienveillants, il y a des gens qui écoutent les étudiants et qui s'en préoccupent. Mais le système en lui-même est un système fondé, construit, pour diffuser l'information vers les étudiants de façon descendante, et on ne se préoccupe pas des attentes des étudiants. Et c'est triste. Mais bon, moi je continue, on va regarder leurs attentes, donc on va utiliser un outil agile, on va faire un peu d'agilité, une carte d'empathie. Vous connaissez la carte d'empathie? Non? Quand vous voulez produire de la valeur pour un client, lui donner un logiciel par exemple, vous mettez à sa place, et vous posez la question, mais il vit dans quel univers mon client? Déjà, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il pense et ressent? Qu'est-ce qu'il voit autour de lui? Qu'est-ce qu'il entend autour de lui? Qu'est-ce qu'il dit et fait? Quels sont son langage, ses préoccupations, comment il s'exprime? Quels sont ses problèmes et quels sont ses besoins? Eh bien, essayons de mettre Karim au centre de cette carte d'empathie. Allons-y, hop! On met des post-it, on colle des post-it. Comme ça, je fais faire ça à des étudiants en informatique, étudiants en créativité logicielle, ou des étudiants, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, des étudiants que je mets en situation de création de start-up. Et la première chose, le premier TD qu'on fait, c'est la carte d'empathie. Vous adressez à qui? Qu'est-ce qu'il pense votre client? Comment vous pouvez répondre à ses besoins? Alors, évidemment, c'est lisible, donc je vais faire une petite animation. Donc d'abord, la perspective client, il veut trouver un job qui l'éclate. Nos étudiants ne sont pas carriéristes, pour la plupart d'entre eux. Ils ont envie de faire quelque chose qu'ils aiment, surtout en informatique. Surtout qu'en informatique, eux, ils peuvent développer très rapidement, donc ils ne comprennent pas très bien pourquoi il faudrait qu'ils passent par toutes sortes d'étapes. Eux, ils développent, ils veulent un job qui les éclate, et ils sont souvent très contents d'aller dans des entreprises comme Imagile, par exemple, où ils font plein de développement, et voilà, ils s'éclatent, et c'est une entreprise qui leur plaît. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient sa sœur qui galère. Ouais, c'est pas facile de trouver du boulot. Ils voient un pays vieillissant. Ouais. Je ne crois pas qu'on se rende compte à quel point notre pays est vieillissant. Il y a une statistique que je trouve super intéressante, c'est Philippe Lemoine qui la cite. Si on prend les 100 premières entreprises de chaque pays, aux États-Unis, 63 ont été créées il y a moins de 30 ans. En Europe, il y en a 9 et en France, aucune. Bon, quand j'ai découvert ça, ça m'a quand même interpellé. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a plus de 30 ans, elle peut développer des choses super dynamiques. On voit bien les Orange Labs, c'est quelque chose de génial. Mais le management de l'entreprise reste, et la culture de l'entreprise reste la vieille entreprise. Et c'est très facile de constater, par exemple, que chez Orange, entre des équipes super dynamiques comme les Orange Labs, que j'adore et à laquelle je travaille, vous avez des managers qui sont très à l'ancienne. Et donc, c'est ça, et ils ont le sentiment que notre monde est vieux. Je pense vraiment, ils ont le sentiment que notre monde est vieux. Alors pourquoi je peux dire ça? Parce que, c'est vrai que je n'ai pas parlé, des étudiants, je ne vous ai pas dit, j'en vois à peu près 500 par an. Donc j'en vois beaucoup, et j'ai 4 enfants aussi entre 20 et 28 ans. Donc j'ai un bon terrain d'expérimentation pour essayer de voir ce qui se passe. Les parents sont sous pression, les industries ferment, le web a réponse à tout, donc ils peuvent aller sur le web comme ils veulent, l'attente est en burn-out, et oui, le burn-out c'est quand même, des managers en souffrance, il y en a beaucoup, et les étudiants le savent. Ils voient bien le monde qu'on leur propose. Ils ne sont pas fous. Ils voient bien vers quoi on va et ils n'ont pas envie de se laisser happer. Le réchauffement climatique, bien entendu, tous les problèmes de climat. Et puis toujours que des cours et des TD à la fac. Ça aussi, on ne peut pas dire qu'on a fait la révolution pédagogique. Le cours TD, ça reste la forme pédagogique la plus prisée. Et ce n'est pas la plus moderne. Alors, ils ont décidé ça, oui, il entend ça, ils ont décidé ça sans nous consulter. Ouais, les décisions managériales. La direction qui marche sur la tête, ouais, vous savez, il y a des directions, ils sont à Paris et puis ils décident des trucs, parfois ils sont carrément à l'étranger, comprends pas. Sans diplôme, il n'y a plus de job, ouais, ça c'est une chose qu'ils entendent beaucoup, les étudiants cherchent un diplôme. Pas pour apprendre des choses, pour avoir le diplôme, parce que c'est terriblement important dans la société française. C'est une ambiguïté qu'il faut comprendre, si vous ne proposez pas aux étudiants d'aller jusqu'au master, ça ne les intéressera pas, souvent, la plupart du temps. Alors, vous en avez quelques-uns. Moi, j'ai eu un cas d'un étudiant qui a fait sa licence. Il était major de la licence d'informatique. Il est parti en master. Ça l'a dégoûté. Il a dit, tant pis, je ne fais pas de master. Et là, il essaie de créer sa start-up. Mais c'est rare. La plupart du temps, les étudiants restent prisonniers du système parce qu'il faut qu'ils aient le diplôme. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'aiment. Si on n'avait pas cette obligation d'avoir le diplôme, probablement que beaucoup d'étudiants nous échapperaient. Mais bon, ils sont captifs, donc voilà. Hein, vous voulez votre diplôme de DUT?
Moi, je m'engage sur un DUT, puis une licence master. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si ce n'était pas juste pour le diplôme, juste pour le mettre sur mon CV, ça fait longtemps que je serais tombé dans le chiffre.
Ouais, voilà. Merci. Il faut viser la perfection pour atteindre l'excellence. Alors ça, c'est une étudiante qui m'a dit ça il y a quelques semaines. Quand je lui ai, c'était en rétrospectif projet, elle m'a dit ça. Oui, mais enfin, vous comprenez, il faut viser la perfection pour atteindre l'excellence. Et je lui ai dit, bah ouais, mais dans un projet, si vous visez la perfection, vous plantez le projet. Ça l'a un peu perturbé. Il ne faut pas chercher la perfection. Mais c'est des choses qu'on entend, voilà. On tire les gens à leurs limites, tout le temps. Et c'est certainement pas le plus futé. T'en fais pas, eux, ils auront leur prime, bien entendu, c'est bien connu. Je fais pas d'allusion à quoi que ce soit. De toute façon, ils finiront par fermer le site. Et ouais, ça s'entend souvent, ça. Combien vous entendez de gens qui disent que de toute façon, tel ou tel site, il va fermer? Et les étudiants l'entendent. Ils le savent. Enfin, ils voient bien que l'ancien monde s'écroule. Vous êtes toujours le nez dans vos portables. Ouais, les portables sont interdits en cours. Ouais, pas dans les miens. La retraite, on va la payer, mais on n'en aura pas. Ben, ouais. Enfin, j'espère que non, mais bon. Un peu de chômage, pourquoi pas. Ouais, j'ai rencontré des étudiants ou des amis, des enfants d'amis, qui sont très, très décontractés, finalement. Ils se disent, la période de chômage, finalement, tant qu'on y a droit, ben, on va en profiter. Comme ça, on va créer quelque chose, créer sa start-up, ou on prend une année sabbatique et tout. Puis, de toute façon, après, ça n'existera plus, donc autant en profiter tant que ça existe. Non, mais ils arrivent à penser des choses comme ça, parce qu'ils disent, de toute façon, ça va pas le faire, donc... CDI ou CDD, de toute façon, ce ne sera pas stable. Enfin, cela dit, ils préfèrent les CDI quand même. Non, mais franchement, à quoi il sert ce cours? Je l'ai déjà entendu, ouais. C'est pas avec le Japon ici que je vais trouver un job. Ouais, moi je l'ai eu ça. J'ai tous mes étudiants, la première année que j'avais à la Ligue Pro, tous mes étudiants qui m'ont demandé, mais écoutez, on s'inquiète vraiment, est-ce qu'on va trouver un job avec ce qu'on nous apprend? Je les ai rencontrés pour en discuter. Et je vous rassure, ils en trouvaient. Mais ils s'inquiétaient quand même. Ce qu'on enseigne à la fac est loin d'être mauvais. C'est simplement qu'il y a un décalage entre la façon dont on le présente et dont on enseigne et ce que voient les étudiants, ce qu'ils vivent. Totally has been, ce cours, ou alors surtout en codage. Hein. Enfin, les cours sur du développement, très vite, les langages informatiques changent tout le temps. Donc on apprend plein de choses sur le web, en fait. Et ouais, penser qu'on va apprendre du Java, oui, on va apprendre du Java, mais c'est beaucoup de choses qui bougent quand même. Vérifions sur androidpit.fr, ça c'est un site c'est un site communautaire de codeurs, de développeurs. Donc voilà, si un prof dit quelque chose, ben, ils vont vérifier. Super ce cours, j'ai appris plein de choses. C'est d'ailleurs parce qu'ils vont vérifier que de temps en temps, les profs interdisent les portables parce qu'ils sont capables d'aller sur Internet en cours. Donc ils peuvent même contredire le prof. Il y en a qui ne supportent pas. Bon, alors super ce cours, j'ai appris plein de choses, ouais. Et ça aussi, ils sont extraordinaires. C'est-à-dire, quand vous leur apprenez quelque chose, qu'est-ce qu'ils sont contents? Quand ils ont le sentiment qu'un cours leur apporte quelque chose, j'ai quand même vécu mes plus beaux moments de prof avec cette génération-là. Très clairement. J'ai eu des moments d'empathie, de compréhension, d'enthousiasme d'étudiants que je n'avais jamais eu avec les anciennes générations, celles qui étaient dans le système. Les nouvelles générations, elles sont avides de savoir. Et donc, quand on fait un cours qui vraiment les intéresse, on a des super retours. Moi, ça m'arrive de faire la petite rétrospective, là, sur la porte du cours. Et j'ai des retours vraiment super sympas qui m'apprennent plein de choses.
Excusez-moi. Oui. La génération qui dit super, les cours, j'ai fait plein de choses, c'est ceux qui sont juste pour le diplôme aussi. C'est ça?
Oui, mais ça n'empêche pas qu'ils s'intéressent à des cours lorsque quand ils sont bien. Ouais, on les emprisonne dans la salle de cours et puis on leur fait un cours qui leur plaît, ils le disent. Ouais, non, mais ils sont pas... Il n'y a pas d'animosité vis-à-vis des profs. C'est pas contradictoire. Il y a trop de cours, on ne peut pas faire nos projets. Ouais, alors ça, je l'entends énormément, parce que comme je fais justement du management de projet, je les accompagne sur le projet, qu'est-ce que je l'entends? Il y a un nombre de cours, un nombre d'heures de cours qui est complètement déraisonnable. On en reparlera, je vous montrerai un emploi du temps tout à l'heure, ça fait peur. Oui, j'ai déjà des clients, absolument. Il y a des étudiants qui ont déjà des clients. Ils ont beaucoup de maturité, en fait. et on s'en aperçoit, je vous montrerai les ateliers qu'on peut faire après, les enseignements qu'on peut faire, sont des étudiants qui souvent ont beaucoup plus de maturité que nous n'en avions nous. Personne ne veut de moi dans sa boîte. Ouais, alors ça, les CV auxquels on ne répond pas, les CV qu'ils envoient pour avoir un stage auquel on ne répond pas, ils ont vraiment le sentiment d'être rejetés. Ça m'arrive, c'est des sentiments que j'ai ou des retours que j'ai eus parfois. Alors, c'est pas systématique, hein, y en a qui sont pris en stage, bien entendu, et en général, ils finissent par trouver un stage, mais ils peuvent mal ressentir. C'est ce que m'avait dit une étudiante une fois. Je me tire de là et je crée ma boîte. Ouais, quand ils en ont marre. Il met son code sur GitHub et son CV sur monster.fr. Donc le code GitHub, c'est un gestionnaire de code. Et quand c'est des développeurs en informatique, ils peuvent mettre leur code sur GitHub et comme ça, les recruteurs peuvent aller voir le code. Donc ça, c'est les modes modernes de recrutement. On met le code sur GitHub, on met le CV sur Monster, le recruteur sur Monster va avoir le code sur GitHub. Et comme ça, on sait tout de suite si le type il s'est développé ou pas. C'est beaucoup plus fiable que le diplôme. Il regarde y penser. Alors y penser, c'est un super site où vous avez des conférences scientifiques par Bruce... voilà, merci. J'arrive pas à me retenir le nom. Et c'est vraiment, c'est à la fois poilant et super intéressant. Et c'est parfaitement rigoureux. C'est parfaitement rigoureux, c'est un vrai scientifique qui fait d'excellentes conférences. Et donc, il faut voir le problème des profs, c'est que nous, professeurs, nous sommes en concurrence avec ces gens-là. Donc, il faut qu'on ait une valeur ajoutée. C'est... Ils tweetent et un compte Facebook, bien entendu. Pour ça, moi, je leur dis à mes étudiants de tweeter. On fait des ateliers, tweeter après. Ils prennent en photo, ils tweetent. Très bien. Ils jouent à Edge of Empire en ligne. Ouais. C'est très formateur, Edge of Empire. Mon fils a appris le management de projet grâce à ça. Parce que vous avez une équipe et vous attaquez des ennemis et vous avez coordonné l'équipe, ça apprend plein de choses. Je me suis aperçu des qualités de manager de projet de mon fils grâce à ça. Ça apprend pas tout, hein. Il y a quand même des choses à rajouter derrière, mais ça apprend la base. Ça apprend la base de ce que c'est que manager une équipe. Nous, on n'avait pas de moyens d'apprendre ça. Hein. Nous, moi, je ne savais pas ce que c'était que manager une équipe. D'ailleurs, quand j'ai créé ma startup, ça s'est vu, c'était radical. Il fait du soutien en maths en ligne pour ses copains. Ouais, j'ai mon fils qui faisait ça. Il était bon en maths, donc il faisait les devoirs de maths avec ses copains sur Skype. Soutien en ligne direct. Mon fils, le plus jeune, n'a qu'à 20 ans, il faisait son devoir de maths, il jouait en ligne et il discutait avec ses copains en même temps. Les trois à la fois. Donc quand il est rentré en classe prépa, il s'est dit « je vais peut-être me concentrer sur les maths ». C'était quand même raisonnable, ça a ses limites. Mais enfin, il faisait tout à la fois. Puis de temps en temps, on entendait parler maths avec son copain. Parle maths, bah oui, je lui fais des cours. D'accord. Comment on fait pour réussir sa boîte? Ça aussi, c'est des questions que j'ai eues. Très concret. Ouais, moi j'ai envie de me lancer, comment je fais? C'est pas très facile de répondre à ça. Mais ils aiment bien qu'on réponde à ce genre de questions. Intéressant le cours d'entrepreneuriat, bah oui, si vous créez sa boîte. Pourquoi on ne fait pas plus de jeux en cours? C'est vrai que les jeux en cours, ils adorent. Et ils prennent ça tout à fait au sérieux. Bon, vous avez les équipes d'Orange là, qui vous ont montré comment l'intérêt pédagogique des jeux, qu'on pouvait apprendre par le jeu, que c'était même une technique normale. Pour nos étudiants, c'est complètement normal. Qu'on déstructure le cours, ça ne les choque pas du tout. Vous leur dites, OK, vous prenez, c'est ce que je fais en rétrospective, vous prenez un grand craft, vous le divisez, vous faites la rétrospective projet. Ils le font, aucun problème. C'est même parfaitement légitime. Ça les surprend quand même à peu près 5 minutes. Et après, ils le font. Ils ne trouvent pas sa place dans un monde pessimiste. Ouais, ça c'est dans les problèmes. Ne comprend pas les institutions. Ouais, je crois qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que sont nos institutions. Et il y a un risque aussi qu'ils n'affrontent pas la réalité et se réfugient dans le virtuel. Oui, effectivement, le fait d'être en ligne, ça peut permettre de rêver. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup de fausses compétences sur le web. C'est loin d'être un monde idéal, mais il y a des vraies compétences aussi. Alors les besoins, trouver sa place dans la société. Un diplôme bien coté, parce que oui, le diplôme en France, c'est le sésame, donc il faut le diplôme. Et puis faire un travail en phase avec ses valeurs. Donc ça, les valeurs, on les voit ressortir régulièrement chez les étudiants. C'est important, c'est quand même quelque chose que dans les années 80, on n'évoquait pas beaucoup. Moi, j'ai été formé dans les années 80, et c'était quand même un monde de rapia. Hein, la phrase type qu'on entendait quand j'étais formé en tant qu'ingénieur dans les années 80, c'était « je ne vous félicite pas ». Ce n'est pas très engageant. Voilà, c'était normal de se faire engueuler. De toute façon, à l'époque, il y avait encore de l'emploi, donc ce n'était pas trop grave. Mais maintenant, ça a d'autres conséquences et les valeurs, c'est devenu vraiment important. Donc voilà, donc c'est un... Bon, c'est Karim, hein, c'est un étudiant potentiel. Comme je vous ai dit, j'en rencontre pas mal. J'ai des enfants qui sont dans ces âges-là, donc j'ai imaginé un petit peu tous les besoins qu'ils pouvaient avoir. Alors, quelles attentes? Comment on peut synthétiser un petit peu ces attentes? Bon, la carte d'empathie, c'est quelque chose de très général. Il faut un peu resynthétiser, enfin, très fourni, on peut synthétiser un peu derrière. Bah, qu'on le protège. Je pense que vraiment, les nouvelles générations, elles ont besoin d'aller dans le monde, mais elles ont besoin aussi d'être protégées, comme tous les étudiants. Mais pas protégées, enfermées dans le milieu universitaire, protégées pour découvrir le monde. Et y aller. Qu'on lui permette de trouver un travail, parce que ça... C'est quand même la grande problématique aujourd'hui, c'est de rentrer dans la société, de trouver un travail stable, ou du moins un travail durable, qu'on reconnaisse qu'il a ses propres sources de connaissances. Je pense que pour tous les étudiants, ça deviendrait incompréhensible qu'on dénigre le web. Il y a beaucoup de choses importantes et de connaissances importantes qui sont sur le web. Leur apprendre à s'en méfier est une chose. Le dénigrer est une autre chose. Il y a des choses importantes. Qu'on lui décerne un diplôme national et si possible de qualité. National parce que c'est ce qui est reconnu en France. Qu'on le prenne au sérieux dans ses initiatives, comme créer sa boîte. J'ai eu un cas tout à fait extraordinaire d'un étudiant, qui est là d'ailleurs, mais qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, ici, mais qui est au Printemps Agile. Cet étudiant candidatait en Ligue Pro Web l'année dernière. Il n'y est pas allé. Il a créé sa boîte et a pris une stagiaire qui était étudiante dans la Ligue Pro Web. C'est-à-dire que j'ai eu deux candidats, hein, et l'une a été le stagiaire de l'autre. Je n'avais jamais vu ça. Et ils osent. Ils sont sérieux, hein, dire, ça marche. Visiblement, ils y arrivent et ça n'a rien de ridicule. Enfin, je veux créer ma boîte, ça n'a rien de ridicule. Ils ont raison. D'ailleurs, quand on voit le nombre de boîtes qu'on a besoin de créer, puisque toutes ont plus de 30 ans, on ne peut que trouver ça légitime. Qu'on lui fasse confiance, ouais, ça revient, surtout quand on fait des projets sur 3 jours, des projets agiles. Vous nous avez fait confiance, ça c'est vraiment important. Qu'un enseignant leur fasse confiance, qu'on leur dise « Ok, allez-y, on vous protège, mais allez-y. » Et puis qu'on ne lui demande pas d'obéir s'il ne comprend pas pourquoi. Ouais, ils sont beaucoup moins dans la compréhension des institutions, donc ils veulent du sens, ils veulent comprendre pourquoi on fait les trucs. Et ils le demandent d'ailleurs. Alors, si on veut répondre à ces demandes-là, comment on peut faire? L'enseignement classique descendant, qui est de transmettre une connaissance de l'enseignant-chercheur vers les étudiants, ça ne répond pas à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas le faire, mais il faut trouver d'autres modes de communication. Alors, d'abord, il faut lâcher prise. C'est-à-dire que si on veut faire confiance aux étudiants, il faut oser faire confiance aux étudiants. Ce n'est pas naturel. Pour moi, c'était un saut élastique. Quand j'ai commencé à faire de l'agilité, la première fois, j'ai fait un brainstorming avec les étudiants, c'était le Master eSecure. J'ai fait un premier brainstorming, je dis, je lâche prise, je laisse trouver leur sujet de projet. Et ils étaient pratiquement capables de créer la start-up derrière. Donc ils ont créé un produit, ils ont trouvé 3 clients, ils avaient des prospects, ils ont présenté, il y avait tout le marketing, enfin il y avait tout ce qu'il fallait. Mais j'ai complètement lâché prise. Et on est passé par des hauts et par des bas. C'était assez stressant pour moi, mais... On lâche prise, on se dit, on leur fait confiance, on va les laisser faire. Mais on les protège. Et on leur apprend, évidemment, tout du long. On construit un enseignement où l'étudiant puisse s'explorer sans se perdre. Donc, il va partir, il va essayer de trouver son chemin. Et nous serons toujours là pour essayer de les guider, leur apporter les connaissances, leur apporter le réseau. Car une chose que j'utilise beaucoup, c'est mon réseau. Hein, j'ai des étudiants qui sont en création de start-up. Là, je les ai mis en contact avec Natixis, qui leur a fait un premier prospect. Ils ont appris beaucoup de choses. Donc le réseau est une chose importante. On les jette dans le grand bain, voilà. Comme ça, ils vont apprendre à nager. Le meilleur moyen d'apprendre à créer une start-up, c'est d'en créer une. Et là, quand même, on a les bouées. Donc, OK, on les met dans le grand bain, mais on les protège et on va leur apporter les éléments pour qu'ils ne se noient pas et que ce ne soit pas trop dangereux. J'insiste beaucoup là-dessus. En particulier, quand je fais l'enseignement de créativité logicielle, pour moi, on met des étudiants de L3 informatique à des étudiants de l'IAE et on leur dit « créez votre start-up ». Bon, pourquoi on fait ça? On sait très bien que la plupart des start-up vont se planter, mais ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas de risque. C'est un enseignement. Ils le font à blanc. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre vraiment ce que c'est de créer une start-up, ce que c'est que de rencontrer des investisseurs. Donc, ils sont protégés. Il n'y a pas beaucoup de risques. Tout ce qu'ils risquent, c'est d'avoir un peu moins de points parce que ça aura moins bien réussi. Mais par contre, ils vont apprendre énormément de choses. En faisant, tout simplement, par l'expérience. Le tout, c'est d'arriver à positionner un enseignement par rapport à une expérience concrète que vivent les étudiants. Et ça, ce n'est pas facile, mais pour faire ça, ça demande du lâcher prise. Ça demande de se dire, de toute façon, je ne vais pas tout maîtriser. Ce n'est pas mon enseignement classique, mais je vais essayer de leur apporter le maximum de valeur. Et ça peut être difficile à vivre au début comme enseignant parce qu'on se dit, mais je ne vais peut-être pas être à la hauteur. Mais en fait, ce n'est pas grave. Les étudiants vont reconnaître l'effort. Ils apprécient que les enseignants fassent cet effort. Alors, ça va répondre aux attentes de protection, puisqu'on va les mettre dans le grand bain, mais il y a des bouées. De trouver du travail, évidemment, parce que ce sont des expériences qu'ils vivent, qu'ils peuvent mettre en valeur dans leur CV, leur dire qu'ils ont fait de l'agilité, qu'ils ont mené un projet de groupe, qu'ils ont présenté des choses à des clients. Tout ça, ça a énormément de valeur et ça fait la différence sur leur CV. C'est vraiment important. Qu'on reconnaisse qu'il a ses propres sources de connaissances, bien sûr. Ils ont le droit d'aller chercher sur le web. S'ils trouvent des bêtises sur le web, ils en auront les conséquences dans la création de leur startup. En général, ils sont très raisonnables là-dessus. Ils vont chercher les connaissances dont ils ont besoin. Là, j'avais en créativité des logiciels un groupe qui avait besoin de faire de l'imagerie. Ils sont allés chercher les bibliothèques qu'il fallait sur le web. Ils se sont débrouillés. Ils se débrouillent très bien. Pas besoin de cours. Qu'on lui discerne un diplôme national et si possible de qualité, ça, je ne sais pas trop. Ça a du mal à rentrer dans le diplôme national. Quand vous mettez ça dans les maquettes, ce n'est pas toujours simple et ce n'est pas toujours reconnu par l'institution. Qu'on le prenne au sérieux dans ses initiatives, oui, c'est même le principe. C'est, vous voulez vous lancer, allez-y. Qu'on lui fasse confiance, c'est bien le principe, on leur fait confiance. Et on leur donne du sens, donc s'ils font des choses, ou si on leur donne un conseil et qu'ils ne le suivent pas et qu'ils se plantent derrière, ils comprennent pourquoi on leur avait donné le conseil. Alors qu'est-ce qu'on peut enseigner comme ça? On peut enseigner la natation. C'est une méthode. Il ne faut pas oublier la bouée. On peut enseigner la rigueur scientifique. Ouais, tout simplement en leur faisant faire un certain nombre de travaux, de recherches scientifiques, et puis de voir s'ils arrivent à comprendre ce qui est important scientifiquement. Est-ce qu'ils ont une intuition scientifique? Est-ce qu'ils ont un peu de rigueur? Ou est-ce qu'ils croient n'importe quoi sur le web? On peut apprendre des principes du droit, on peut apprendre une langue étrangère, l'esprit critique, ça peut être très utile, le sens physique, le management, les lois économiques, la communication. Tout ça en faisant, le codage informatique aussi. En faisant, on apprend énormément de choses. Et on peut très bien apprendre le codage informatique en commençant à coder, en apprenant des choses sur le web, en présentant son architecture, en découvrant que l'architecture elle est foireuse, en discutant avec l'enseignant, en recadrant les choses, enfin... On peut très bien avoir une interaction entre des étudiants qui apprennent en faisant et un enseignement universitaire. C'est tout à fait possible. C'est une remise en cause certainement de la façon de fonctionner classique des universitaires, mais c'est super intéressant. Et c'est super valorisant pour les étudiants et pour les enseignants. Moi, je le fais depuis plusieurs années, c'est vraiment bien. Alors, moi, j'enseigne comme ça le bon sens. Alors, pourquoi j'enseigne le bon sens? Parce que j'enseigne le management de projet et que si vous demandez à un manager de projet c'est quoi manager un projet, il vous répond c'est du bon sens. Le management de projet, la base scientifique du management de projet, c'est le bon sens. Essentiellement. Mais le bon sens n'est pas évident. Tout dans notre société, dans nos organisations, le bon sens est loin d'être évident. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a du bon sens dans le management de projet? Eh bien, une chose que j'ai beaucoup vécue à Bouygues Télécom, c'est que vous avez des projets, ils sont transverses. Donc, les projets traversent différents métiers, métier 1, métier 2, métier 3, métier 4. Alors, ça peut être une équipe marketing, une équipe de développement, une équipe de mise en production, une équipe de sécurité, par exemple. Et donc, tous ces gens-là participent au projet. Et vous avez des bouts d'équipe issus de chacun des métiers qui participent au projet. C'est ce qu'on appelle l'organisation matricielle. Donc, ici, pour coordonner ces gens qui n'ont pas les mêmes managers, vous avez des chefs de projet, ils sont là. Et c'est loin d'être simple parce que les différents métiers ne se parlent pas toujours. Et au-dessus des différents métiers, vous avez des managers. Et au-dessus des managers, vous avez des managers de managers. Et au-dessus des managers de managers, vous avez des managers de managers. De managers. Voilà. Donc des gens là-haut. Et alors, quiconque connaît ou ou à pratiquer le management, c'est qu'un manager a parfois intérêt à ce que ses équipes ne soient pas complètement d'accord. Ça peut être la division pour régner, c'est quand même un principe qui marche bien. Ça permet de régner. Ça ne permet pas forcément de faire fonctionner les organisations, mais ça permet de régner. Alors c'est parce que tout ça ne s'entend pas très bien et que les managers peuvent être mis en concurrence les uns avec les autres, qu'on a besoin des chefs de projet pour arriver à faire marcher tout ça, parce qu'évidemment, quelque part, les chefs de projet servent à contrecarrer les défauts du management. Il y a de ça. Et parce que si vous laissez les gens travailler ensemble, ben, ils vont chacun tirer dans leur sens, dans le sens de leur chef, là, hein, et à l'arrivée, le projet n'arrivera pas. Et donc, vous avez le système des managers, vous avez le système des chefs de projet, et entre les deux, eh ben, y a des conflits permanents. Et alors, c'est des conflits absolument terribles, parce que quand vous êtes... C'est des situations que j'ai vécues, hein, je les connais bien, donc j'ai vécu ça, Bouygues Télécom, c'est comme ça. Et donc, quand vous êtes là, vous avez des trucs qui tombent de là-haut et vous ne savez pas d'où ça vient. Vous ne savez pas pourquoi. Il y a des conflits, des machins, des gens qui vous disent « Ah, c'est super ton projet » et puis qui, ailleurs, vous dégomment en disant « Mais il est complètement nul son truc, ça ne marche pas du tout. » Enfin, vous avez des choses et vous êtes dans un... En fait, vous êtes complètement dans l'incertitude. C'est là que moi, quand je suis arrivé à Bouygues Télécom, j'ai été surpris parce que je pensais que j'avais fait de la science. J'allais arriver dans un monde bien structuré avec un management qui sait où il va. Et en fait, on s'aperçoit que les managers, ils se bouffent le nez, que les équipes, ils se tirent la bourre et que tout ça, les projets, ils doivent être transverses, donc ils doivent fonctionner quand même. Et donc, la qualité principale d'un bon chef de projet, c'est le bon sens. En fait, il faut un très, très solide bon sens. Sinon, vous ne survivez pas. Si vous avez des cas extraordinaires que j'ai eus, hein, quand vous voulez faire planter un projet, vous avez les techniques extrêmement sophistiquées qu'a montré Frédéric, mais il y a une technique extrêmement simple, c'est que là, vous mettez un débutant. Ah, c'est mort. Je l'ai vu. J'avais un Bouygues Télécom, un projet vachement important. Vraiment, le truc hyper stratégique. Mais ça ne plaisait pas au DSI. Vous savez, le monsieur là-haut, ça ne lui plaisait pas. Oh, il a trouvé la solution. On met un type qui n'a jamais été chef de projet à la tête. Ça a été radical. Puis quand ça a foiré, il a mis un bon chef de projet. Il avait repris le pouvoir. Voilà. Donc vous pouvez vous faire flinguer. Voilà. Donc nos étudiants, ils vont peut-être rentrer dans ce monde-là. Et en tous les cas, les gens qui sont là, et j'en ai fréquenté beaucoup, ce sont des gens qui ont un très solide bon sens. Et moi, j'adore le monde des chefs de projet. Et c'est le monde des chefs de projet qui a donné l'agilité, d'ailleurs. Parce que les chefs de projet sont des gens dont l'objectif est de faire arriver le projet. Ils pensent projet, ils essayent de le faire fonctionner. Et ce sont des gens qui ne peuvent faire ça que parce qu'ils ont de l'expérience, ils observent, ils regardent, ils sont prudents, ils réfléchissent, ils ont un très solide bon sens. Et dans le monde complexe qui est le nôtre, comme on est confronté à la complexité, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, avoir du bon sens, retrouver du bon sens, c'est vraiment indispensable. J'ai rien contre la science, mais retrouvons un peu de bon sens dans nos enseignements. Moi, je trouve qu'on envoie les étudiants, on m'a envoyé moi-même, d'ailleurs, quelque part, en ma start-up, je me suis envoyé moi-même là-dedans, franchement, au casse-pipe, on leur a appris des tonnes de science et on ne leur a absolument pas appris comment le monde dans lequel ils vivaient fonctionne. Donc, le bon sens, un peu de prudence. Alors, par exemple, comment on fait ? Ben, on part d'un problème complexe. Ça, c'est un travail qu'on a fait avec le WIP, donc l'association Le WIP. C'est la grande halle de la SMN. Et donc, c'était en décembre, auprès des DUT MMI, donc les deuxièmes années de DUT MMI. C'est une PESCO qui est venue leur présenter donc, tout un exposé pendant 20 minutes, une demi-heure. Et le besoin, développer la communauté, le WIP, mobiliser la communauté autour du développement du projet de la grande halle, accentuer la visibilité, démontrer la vitalité du projet au travers d'événements accueillis à la cité de chantier. Paf, elle leur a balancé ça. Et allez-y, faites-moi un plan de communication, un site web, des éléments, des flyers, enfin toute la communication qui va avec ça, des vidéos. Voilà. C'était ça le sujet. Donc on les jette dans l'eau et on les fait se débrouiller. Alors comment on fait ? On mélange des professionnels et des étudiants. Donc là, vous avez Emmanuel qui est en bas, qui est en train d'encadrer un atelier de management de projet agile avec les étudiants. Donc, je n'hésite absolument pas à faire intervenir des professionnels de management de projet auprès des étudiants. Et on en trouve plein de professionnels ne demandent pas mieux que d'enseigner. En fait, les professionnels qui enseignent sont super contents parce qu'ils ont des équipes motivées qui sont contentes de le faire. qui leur font confiance, qui sont contentes parce que aux étudiants, on leur apporte de la connaissance qu'ils n'ont pas, on leur apporte ce bon sens de chef de projet. Et moi, je leur apporte aussi quand je peux, mais je n'hésite absolument pas à faire intervenir d'autres que moi. Je n'ai pas la connaissance, les chefs de projet n'ont pas la connaissance, les chefs de projet ont des expériences qu'ils échangent. Les chefs de projet, c'est des communautés de pratiques différentes suivant les différentes expériences qu'on a eues. Donc, personnellement, je ne sais pas ce que c'est que le management de projet. J'ai une expérience de manager de projet, mais je n'aurais pas la prétention de dire que je sais tout. Au contraire, il y a plein de gens beaucoup plus compétents que moi. Emmanuel est beaucoup plus compétent que moi sur beaucoup d'aspects. Et ça ne me pose aucun problème. Là, vous avez des clients de chez Orange, des ingénieurs de chez Orange qui jouent client. Donc ça, c'était des étudiants de créativité logicielle. Donc ils ont créé leur start-up et ils font un salon où des clients viennent et investissent ou pas dans les entreprises. Donc là, c'était chez Orange avec des professionnels d'Orange. Là, c'était Lord Rege qui travaille à la CRES. C'était aussi pour un autre projet agile. Donc très vite, on leur fait rencontrer le client. Donc ils voient tout le temps le client. Ils voient toutes les semaines, parfois tous les jours, suivant la durée du projet. Là, c'était le projet SmartPass. C'était 12 étudiants, MMI, DUT, enfin licence pro LPC à une licence pro à Saint-Lô, je n'arrive pas à trouver le nom, DL3 informatique et des étudiants de Ligue Pro Tourisme qui ont travaillé ensemble. Et là, c'est Grégory Castel de la société Saut Numérique. Donc ils ont fait un produit pour la société Saut Numérique, ils l'ont montré au salon du tourisme numérique. Avec une échéance qui était qu'il fallait que ce soit montré au salon. Donc il fallait que ça marche. Et Grégory les a secoués pour que ça marche. Il a fait son boulot de client exigeant. Et moi, je les aidais à supporter tout ça. Et à apprendre à rester humain et à collaborer dans ce cadre-là. Ils se seraient... Je veux dire, au bout de 15 jours, ils s'engueulaient déjà. Hein, mais c'était volontaire, on les a fait s'engueuler. Puis après, on leur a dit, bah voilà, comment on peut arranger les choses. Et petit à petit, ils ont pris en charge le projet pour devenir une super équipe. Ça, c'était la suite du projet que je vous ai montré à Salo. Avec le WIP, on leur a fait ce qu'on appelle la Product Box. Et on les a mis dans la salle d'examen. C'était assez ironique. Et on leur a donné des ciseaux, des revues à découper, des boîtes de chaussures. Et puis, ils ont créé leur produit. Voilà, qu'est-ce qu'ils proposent au WIP? Ils ont directement échanger avec leurs clients. Donc, ils avaient besoin super complexe pour l'appréhender. Ben, on leur fait un jeu créatif qui présente la boîte aux clients. Comme ça, ils ont appris plein de choses de leurs clients. Ça, c'est un jeu qui consiste à créer le totem des valeurs de l'entreprise. Donc, 3 valeurs et ils créent le totem en Lego. C'est très rigolo. Et ça leur fait réfléchir à la valeur de leur entreprise et penser que les valeurs de l'entreprise doivent être en phase avec leurs clients, avec leurs produits et avec le comportement des collaborateurs. C'est pas quelque chose de naturel, c'est du bon sens, mais c'est du bon sens qu'ils expérimentent. Ça, bah, c'est juste un atelier MVP, Minimal Viable Product, pour faire la première IHM de leur produit. C'est la première chose qu'ils font. Après la carte d'empathie, ils font ça. Et après, ils confrontent à la réalité du terrain pour savoir si les clients vont se reconnaître dans ce produit-là. Sans avoir rien développé, hein, c'est pas la peine de développer. Hein. Rien que dessiner, déjà, c'est bien. Et une fois qu'ils ont fait ça, ben ils sont déjà dans leur produit. C'est pas mal. Et alors là, c'est le Lego for Scrum. Donc c'était un atelier agile qui permet d'apprendre l'approche agile, donc à collaborer dans l'équipe et à interagir avec un client. C'est un atelier très très classique, mais les étudiants ne l'ayant jamais fait, j'en fais beaucoup. Ensuite, une fois qu'ils ont appris ça, on peut les lancer. Donc ça, c'est les MMI l'année dernière. Ils sont en rétrospectif projet. Et vous voyez, il n'y en a qu'un qui peut-être ne regarde pas, mais les autres, ils sont complètement focalisés. Et je n'étais pas là. Hein. Enfin, si, je suis dû prendre la photo, mais je suis reparti tout de suite. Une fois qu'ils ont appris les techniques de rétrospective, s'ils voient que ça leur apporte quelque chose, ils le font. Et ils sont motivés. Ça, c'est un Kanban pour suivre les tâches du projet. Ça, c'est le résultat d'une rétrospective. Qu'est-ce qu'on doit arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on doit continuer à faire? Et qu'est-ce qu'on doit améliorer? Et vous remarquez que lors des rétrospectives, il y a souvent des cœurs. On s'aperçoit que dans le continuer à s'aimer, continuer à être bien ensemble, c'est quelque chose auquel ils attachent beaucoup d'importance. Et puis, après, les résultats sont vraiment bluffants. Ça, c'est une présentation donc, au MMI, c'est le résultat. Voilà, nous sommes le WIP, c'était le produit. Donc, ils sont tous ensemble et là, ils se forment une équipe. Ils ont travaillé qu'en 3 jours, mais je vais vous dire, les remerciements qu'on reçoit après ces 3 jours, c'est extraordinaire. Mes plus grandes émotions, je les ai vécues après 3 jours agiles comme ça, quand les étudiants font la rétrospective, remettent le résultat et nous disent on a vraiment appris plein de choses. Ils apprennent énormément en faisant. Ça, c'est la présentation de créativité logicielle, donc des étudiants de L3 Info, des étudiants de l'IAE, qui présentent à des investisseurs. Donc là, ils rencontrent de vrais investisseurs. C'est à la fois très dur et très enrichissant. Et là aussi, ceux qui ont fait créativité logicielle s'en souviennent. On apprend plein de choses en faisant ça. Ça, c'est un projet sur 3 jours en GEA. Et là, c'est Laure Savary de Natixis. Et là, pour montrer la qualité de l'investissement de Natixis, ils ont eu 8 jours hommes. En gros, 4 collaborateurs la première journée et 2 collaborateurs les 2 jours suivants. Ils ont passé 8 jours hommes avec nous, avec les étudiants, et uniquement pour leur apprendre. Moi, je trouve ça remarquable. Ils le valorisent, bien entendu, en interne, c'est complètement normal, mais des professionnels qui veulent enseigner, vous en trouvez plein, et il y a une vraie volonté de transmettre les connaissances aux jeunes. C'est quand même rassurant. Et ce serait dommage que l'université se mette en barrage de ça, et doit au contraire l'accompagner. En tout cas, c'est ma conviction. Et puis là, c'est le salon de créativité logicielle. Donc là, en créativité logicielle, ils passent devant des investisseurs, et 15 jours après, ils présentent sur un salon. Alors pour ceux que ça intéresse, ce sera la semaine prochaine, mercredi prochain, à l'IAE. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous dirai comment passer et voir ce qui se passe. Et là, vous avez des étudiants, ils sont sur un salon, ils sont en train de vendre leurs produits, ils se battent pour avoir le meilleur produit possible et avoir le maximum d'adhésion du public. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans tout ça? Des morceaux de bon sens appris. Donc, il y a plein de choses. Donc, j'ai essayé de mettre rapidement des situations que j'ai rencontrées en pratique. C'est en se confrontant à la réalité qu'on réussit. Pour réussir un projet, il ne faut pas tout faire. Ça, c'est crucial. C'est peut-être contre-intuitif, mais c'est essentiel. Si vous voulez réussir un projet, ne faites pas tout. Faites ce qui est important. Il faut se parler au-delà de nos spécialités, évidemment. Il faut lutter contre les silos. Un client, c'est mieux ce qu'il veut quand on lui propose quelque chose. S'il ne voit jamais rien, il ne saura pas ce qu'il veut. Donc, si on lui montre quelque chose, il va peut-être dire que ce n'est pas ça, mais au moins, il apprendra ce qu'est son besoin. Les dates limites motivent. Ouais, moi, je mets des jalons quand même, je trouve que c'est pas mal. En tous les cas, si on ne met pas des jalons, on met au moins une démo à la fin de la semaine. Comme ça, ça motive et puis ça fait que les étudiants convergent. Des métiers différents parlent des langages différents. Donc il faut peut-être travailler la communication. Manquer de temps est rarement une cause d'échec. Ou alors ça, au début, ils vous disent toujours, mais on n'a pas eu le temps. Bon, au bout de 3 jours, ils s'aperçoivent qu'en très peu de temps, finalement, ils font des choses super. Donc ils arrêtent de penser que le temps est une excuse. Par contre, manquer de communication est souvent une cause d'échec. Oui, ça, c'est pas le temps qui plante les projets. C'est le manque de communication, ça, c'est beaucoup plus redoutable. Pour connaître le besoin du client, il faut lui parler, il faut parler au client. Chercher le coupable ne résout pas les problèmes, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas parce qu'on l'a décidé que quelqu'un va le faire. Alors ça, c'est régulier, les étudiants qui décident quelque chose et puis ça se fait pas. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Peut-être parce qu'il n'y avait personne qui était chargé de le faire. Bon, ils le font tout le temps. Ça paraît idiot comme ça, mais c'est une erreur que n'importe quel groupe humain fait. Décider des trucs et puis il n'y a personne qui est chargé de le faire, évidemment, ça ne se fait pas. Il vaut mieux commencer par ce qui est risqué, ce qui n'est pas du tout le naturel des étudiants, d'où l'importance de la confiance. Oser les trucs durs. Parce que ça, si vous plantez au début. La perfection est contre-productive. Alors là, j'en suis absolument convaincu. Et c'est un problème parce que c'est vraiment une rupture avec ma culture d'universitaire. La plupart des universitaires tirent à la perfection. Et donc, malheureusement, le réflexe universitaire, c'est de faire planter les projets. Parce qu'on augmente tout le temps de niveau jusqu'à ce que ça plante. C'est peut-être très bien pour apprendre, je veux bien, mais en tous les cas, pour planter des projets, ça peut être très efficace. Le mail est le pire moyen de communication disponible. Si l'équipe n'y croit pas, personne n'y croit. Alors apprendre à représenter leur projet, il faut que vous le portiez. Si vous, vous n'y croyez pas, ce n'est pas la peine. Anticiper les risques est une bonne idée. C'est pas bête. C'est pas naturel, mais c'est pas bête. Pour réussir le projet, d'abord réussir l'équipe. Donc on travaille d'abord sur l'équipe. Soyez une équipe. La confiance vaut mieux que le contrôle, mais ne l'exclut pas. Surtout quand on enseigne. Moi, j'enseigne après avec des étudiants, donc il vaut mieux contrôler un petit peu ce qu'ils font. Ils ne sont pas encore très fiables, ils sont jeunes. C'est en se plantant qu'on apprend le plus vite. C'est vrai. Si personne n'a de problème, c'est que peut-être que personne n'a intérêt à avoir un problème. Ouais, alors ça, je cache le problème sous le tapis, c'est très classique. C'est quand même la guerre que font les chefs de projet à toutes les équipes, c'est d'essayer de savoir quels sont les problèmes, qu'est-ce qui se passe vraiment. L'angoisse d'un chef de projet, c'est de savoir ce qui se passe. Parce que les équipes ont intérêt à ne pas le dire, très souvent. Donc il faut le savoir, enfin c'est du bon sens, mais encore une fois, ce n'est pas du bon sens évident, mais prenez pas ça, moi, à la fac. Il vaut mieux se tromper au début qu'à la fin. Ouais, c'est assez vrai. Donc allons directement au but. Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles. Ouais, alors ça, c'est pour tout l'entourage. Hein. S'il n'y a pas de nouvelles, en général, les gens croient que le projet se plante. On est un autre. Donc si on va le faire, encore une fois, personne ne va le faire. C'était pas moi. Quand deux personnes font la même chose, elles ne la font pas pareil. Ouais, donc quand on délègue, bah, faut s'attendre à ce que la personne ne fasse pas la chose de la même façon que moi. Hein, donc moi, quand je laisse les étudiants le faire, ils ne le feront pas comme moi. C'est normal. Hein, c'est logique. Je leur fais confiance. Et parfois, ils me bluffent, parce qu'ils le font mieux que moi. C'est presque vexant. Quand on se rend compte physiquement, la tension diminue. C'est rien de se faire la gueule. Hein, on se rend compte et tout de suite, la tension baisse. Quand on est motivé, ça avance beaucoup mieux. Ouais, on se demande pourquoi certains managers passent leur temps à démotiver leurs équipes, parce que ça n'est pas du tout un facteur d'efficacité, ni de productivité en aucun cas. Mais c'est bien que les étudiants s'en aperçoivent, parce que parfois ils trouvent des clients qui ne sont pas drôles, et s'aperçoivent que c'est très négatif. Un client inquiet est plus exigeant. Ouais, donc si vous voulez que le client vous foute la paix, bah, rassurez-le. Quand on partage les problèmes, on les résout mieux. Ouais, c'est vrai, il faudrait peut-être en parler des problèmes. Il faut un seul responsable par activité. Ouais, parce que dès que vous mettez deux responsables par activité, ils ont beau être responsables, ils ne vont pas avoir la même idée sur ce qui se passe. C'est carrément, c'est impressionnant, mais c'est systématique. Quand deux personnes sont sur la même activité, ils ne font pas le même reporting. Pour comprendre vraiment un problème, il faut y être confronté. Ouais. C'est pour ça que les managers ne peuvent pas comprendre les problèmes, parce qu'en général, ils n'y sont pas confrontés eux-mêmes. Ce qui fait que parfois, on a énormément de mal à leur faire comprendre ce qui se passe. Il est judicieux de tester avant la démo. Ouais. C'est judicieux. Et ils le font tous, hein. Vous faites un projet agile à l'IUT DIF, la première démo, ils n'ont pas testé avant. Il y en a même qui ont préféré passer de la démo en production à la démo au logiciel en production, au logiciel en développement. Ils ont back-upé donc sur la version future parce que la version qui était en production ne marchait pas. C'est vachement rassurant pour le client. Mais enfin, on a des choses, on rigole bien quand même, il y a des choses assez rigolotes. Mal communiquer est un crime, ouais, ça c'est vraiment le crime suprême en management de projet de mal communiquer. Et les étudiants ne connaissent pas l'importance de la communication. On leur fait des cours de communication, mais ils n'intègrent pas, sans y avoir été confrontés une fois, ils n'intègrent pas l'importance de la communication. On le voit sur les projets tutorés, ils ne se rendent pas compte que les personnes en face, elles s'inquiètent, ne comprennent pas ce qui se passe. Mais il faut qu'ils essayent d'avoir un peu d'empathie. Alors, les ingrédients, donc. Je crois que ça va bientôt être l'heure, donc, ouais. Donc, des enseignants bienveillants qui font confiance aux étudiants, des partenaires qui sont vraiment là pour enseigner. Et donc ça, il faut faire attention, j'en parlerai aux partenaires qui ne seraient pas là pour enseigner vraiment. Et il y en a plein. Il y a plein de gens qui veulent enseigner à nos étudiants. Moi, je trouve ça super. Et je n'hésite absolument pas à les faire intervenir. Un niveau d'exigence raisonnable, hein. Le but, ce n'est pas de faire ça. Hein. Donc on reste raisonnable. Ils ne feront pas la tour Eiffel, c'est clair. Mais ils peuvent faire des choses vraiment géniales. Simplement, il faut garder un niveau de qualité raisonnable, il ne faut pas aller trop haut. Et un droit à l'erreur reconnu, c'est vraiment essentiel. C'est les ingrédients essentiels. Et ce qu'il faut éviter, c'est les partenaires qui sont là pour se montrer. Alors là, il y en a. Alors le nombre de gens qui veulent faire travailler des étudiants pour mettre en valeur leur institution, ça existe et ça, c'est pénible parce qu'après, ils vont avoir un niveau d'exigence qui correspond à l'image de leur institution et pas au travail des étudiants. Et là, ça peut vraiment être difficile. Un travail d'étudiant est un travail d'étudiant, ils vont se planter, ce ne sera pas parfait, mais ça peut être super. Des clients méprisants, j'en ai rencontré quand même visiblement qui se disaient « Ah, les étudiants, c'est un bon moyen de faire un truc gratos. » Et derrière, ils peuvent être très, très, très pénibles et je peux avoir des étudiants qui sont complètement déprimés. Alors c'est intéressant parce que ça leur apprend à gérer ce genre de situation, mais il faut que l'enseignant ait une culture et une expérience de manager de projet quand même, parce que ce n'est pas facile. Il arrive d'avoir des clients qui sont vraiment malsains. Malheureusement. Et puis l'excellence académique. Alors ça aussi, il ne faut pas viser l'excellence académique, il faut les mettre en projet pour qu'ils apprennent des attitudes humaines, de la communication, enfin tout ce bon sens qui est nécessaire. Mais on ne va pas monter très haut si on a une excellence académique. Alors, ils vont se focaliser là-dessus, ils ne vont pas du tout apprendre, ils ne vont pas faire d'erreurs, ils ne vont pas prendre de risques. Et ça ne marche plus. Et alors, il faut lutter contre les emplois du temps surchargés. Donc ça, c'est un emploi du temps en master. Donc vous voyez, les étudiants, ils ont fait créativité logicielle et licence, ils viennent en master, ils n'ont plus le temps. Voilà, le projet n'a pas de place dans certains enseignements universitaires. Ah, c'est plein, hein. Tout le temps. Ils sont en cours tout le temps. Plus les devoirs, examens et contrôles continus. Donc là, vous avez quand même 9 devoirs. Vous avez 9 écrits, 9 oraux, plus 2 oraux, oral, rapport et réalisation. Donc les étudiants, on passe son temps à les évaluer. On ne peut rien faire sans évaluer. Mais ça sert à quoi? Moi, je suis enseignant, je ne suis pas évaluateur. Je défends le principe qu'on peut enseigner sans évaluer. Ou alors, si c'est l'évaluation, c'est pour qu'elle soit motivante. C'est-à-dire, c'est la récompense. Mais c'est tout. Je trouve insupportable de dire qu'on va évaluer un cours de management de projet. Ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous? Les étudiants ne savent pas manager des projets en sortie de l'université. C'est complètement normal. Ça n'empêche pas d'apprendre des choses de bon sens qu'ils doivent savoir. Moi, je suis enseignant et je défends le droit à ne faire qu'enseigner. Et puis les silos disciplinaires, donc ça c'est la liste des formations de l'UFR de sciences, des sciences. Enfin ça c'est juste les doctorats parce qu'il y a aussi ça, et puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Voilà, les silos universitaires. Alors là, il y a chacun sa petite discipline, hein. Et puis on ne se parle pas, ouais, ça rappelle certaines entreprises, c'est un peu pareil. Et c'est redoutable, hein. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien c'est compliqué d'arriver à faire un truc où il y a des étudiants de l'IAE et des étudiants du L3 Info. C'est une galère. On réussit, mais c'est un effort, une énergie. Heureusement que j'ai été chef de projet, ça m'a permis d'apprendre à gérer ce genre de trucs. C'est terrible. Alors, est-ce que c'est un combat perdu? Est-ce que l'institution, avec ses silos, ses emplois du temps surchargés, ses évaluations tous azimuts, va arriver à évoluer? Comme on est en Normandie, bah, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Est-ce que ces deux univers sont réconciliables? Est-ce qu'on va avoir un univers vert? Où l'université, avec ses structures, arrivera à collaborer avec ce nouveau monde qui arrive? Ou est-ce que c'est un combat perdu? Est-ce que l'université est-ce que les deux univers vont se faire face? Alors si c'est comme ça, je suis très pessimiste, parce qu'à mon avis, de toute façon, cet univers-là va prendre le dessus. Tout ça va diminuer et perdre en influence de façon considérable, et on va voir arriver, le au mieux, c'est Stanford Online. Voilà, ça, c'est bien. Hein, les cours en ligne, Coursera, la Coding School, nos collègues de la Coding School, qui pourraient récupérer plein d'apprentis qui veulent apprendre à coder, et qui apprendre à coder autrement. L'école 42, alors là, l'école 42, ça... c'est très bien ce qu'ils font, mais on pourrait le faire, si nous laissaient faire. Ça peut être développer.com, donc des clubs de développeurs, mais ça peut aussi être InfoWars. C'est le site qu'aime bien Donald Trump, le site complotiste, ou des sites comme Teach the Controversy. Ça, c'est redoutable, c'est des trucs, la controverse, c'est le créationnisme face au darwinisme, voilà, des trucs comme ça. C'est aussi sur le web, hein. Si on laisse nos étudiants partir là-bas, ils peuvent aller suivre ça aussi, c'est très bien. J'avais un drapeau de Daesh, mais je me suis dit non, je ne peux pas mettre ça sur mes diapos, donc je l'ai viré. Et puis c'est là, d'ailleurs, je les vire parce que je ne peux pas les supporter. Mais voilà. Et moi, j'ai peur. Hein. Franchement, j'ai peur. J'ai peur que notre université, notre système universitaire, se rétrécisse petit à petit, perde petit à petit son influence parce qu'il ne veut pas évoluer. Donc j'espère que ça ne se produira pas. En tout cas, aidez-nous. Si vous pouvez aider les universitaires qui cherchent à faire évoluer les choses, merci. Je remercie tous les professionnels qui m'aident dans mes enseignements. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps pour une question ou deux, si vous en avez. Non, je vous remercie. Ah oui, pardon. Oui, bien sûr, oui. Oui, mettre en situation, et ça change le métier de l'universitaire, mais c'est super intéressant. Que c'est possible si on relâche les contraintes. Le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas d'enseignants qui veuillent le faire. Moi, j'arrive à faire des enseignements avec le L3 informatique et l'IAE, par exemple. J'ai des enseignants qui me suivent. Mais il ne faut pas en parler au-dessus. Il ne faut pas que ça passe par les conseils du FR, il ne faut pas que ça passe par les conseils de l'université. Je suis obligé d'en parler un peu et de ne pas l'officialiser. Je joue juste de ma liberté d'universitaire. Je suis libre d'enseigner ce que je veux. Donc, tant que je suis dans cette liberté-là, ça va. Il ne faut pas aller plus loin. Donc, c'est hyper limitant, en fait. Et puis, j'ai des collègues qui commencent à dire, mais il y en a marre d'avoir des étudiants qui proposent leur projet personnel. Ah ouais? Et plusieurs expériences que j'ai mises là de projets de groupe sont en train de disparaître parce qu'ils ne les ont pas mis dans les nouvelles maquettes. Le système est en train de se refermer. Ouais. Donc, moi, j'essaye d'ouvrir. Et puis, quand ça se referme à un endroit, je vais ailleurs. Mais c'est possible, mais il faut relâcher les contraintes. Si on reste dans le même système de management des universités, de pilotage, enfin de, comment dire, de pilotage des universités, il y a très très peu de liberté.
Malgré qu'on ait beaucoup d'enseignants qui soient dans cette dynamique.
Oui, il y a plein d'enseignants qui sont dans cette dynamique, mais on ne se rencontre pas, presque pas. On ne fait pas des trucs ensemble. On ne fait pas des trucs ensemble. Tu ne peux pas faire des diplômes qui est basé là-dessus. Hein. C'est très difficile. Oui, ça évolue, mais enfin, je peux te dire, alors, peut-être que moi, je suis particulièrement pessimiste parce que je suis allé faire des sciences, et peut-être qu'il y en a qui sont plus ouverts, mais dans mon entourage, c'est dur. Hein. Mais ça remet en cause quand même la posture de l'universitaire, c'est pas simple. On ne peut faire ça qu'avec des volontaires qui ont envie de le faire. Mais si tous les volontaires de l'université de Caen se donnaient la main et pouvaient monter ensemble des enseignements, on ferait des choses super, oui. Ça, j'en suis convaincu. Il y avait une question ?
Vous y avez répondu. C'est effectivement le décloisonnement au travers de la communication de votre enseignement
Sur
le terrain vers vos collègues, leurs étudiants, pour que dans ce genre de manifestation, il y ait plus d'étudiants. C'est la question que je me faisais. Je n'ai pas vu beaucoup d'étudiants.
Bah, il y en a déjà nettement plus. Ça monte. Vraiment, il y en a là. Il y a des. On a, je pense, plus d'étudiants que beaucoup d'autres événements agiles. Mais. Ouais. Mais...
Je fais une petite intervention à l'ENSICAN sur la gestion de projet. Je suis moi-même chef de projet. Et je suis heureux de découvrir que cette manifestation existe à Caen.
Ouais, merci.
Parce que j'ai mis ça dans ma conf il y a très peu de temps et tout le monde ouvrait les yeux gros comme ça.
Et pourtant, j'ai enseigné à l'ENSICAN. J'ai essayé. Et bon, bah, j'ai fait demi-tour et puis je suis allé voir ailleurs parce que voilà, je m'entends beaucoup mieux avec l'IAE, par exemple. Il y a beaucoup plus de sensibilité à l'IAE qu'à l'ENSICAN ou qu'au département info.
Donc, c'est siloté.
Ah oui, complètement. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir toute la communauté universitaire qui s'y met. Hein. Il suffit de quelques volontaires par discipline. Il faudrait qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse réfléchir à des enseignements communs. Il y aurait des choses à faire, il y aurait des super diplômes à sortir. Mais un diplôme, s'il n'est pas dans une discipline définie, il est mal évalué par le CNU. Le système d'évaluation des diplômes est redoutable. Ben non, il n'y a pas de case. Ah oui, mais il y a tellement de cases. Le problème, il est surtout là. Ce n'est pas tellement la motivation des enseignants, ni des étudiants, c'est la capacité du système à développer quelque chose de pluridisciplinaire, par exemple. L'université française est pluridisciplinaire, sauf dans cet enseignement. C'est triste.
Merci.
Merci.